Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Je suis ressuscité et me voici encore avec vous. Alléluia. Mes très chers frères, Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Messie, le Sauveur, est ressuscité. Il ne nous a pas abandonnés alors que nous avons fui lors de son arrestation à Gethsémani. Il ne nous a pas abandonnés alors que nous l'avons renié dans la cour de Caïphe et que nous l'avons enterré lors comme s'il était un mortel quelconque. Mes très chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts, il est apparu aux saintes femmes et à saint Pierre. Quittons le deuil et les larmes, comme nous dit la liturgie, pour nous réjouir d'une sainte allégresse en ce beau jour de Pâques où notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Les larmes, tout ceci doit être maintenant remplacé par une sainte et une véritable exultation dans le Seigneur. Nous avons deux choses à voir aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, deux choses très importantes. Premièrement, nous allons examiner la première strophe de la séquence Victimae Paschali Laudes. Nous allons voir comment cette séquence, cette première strophe, à elle seule, si l'on peut dire, résume toute la vie chrétienne. Nous verrons, nous parlerons du sacrifice qui plaît à Dieu, et nous verrons aussi quelles sont les conséquences de l'indulgence envers le vieil homme, et nous nous poserons la question, qu'est-ce qu'être chrétien en réalité? Et notre deuxième point nous conduira à voir l'oraison d'aujourd'hui, l'oraison collecte d'aujourd'hui. Nous en ferons l'explication avec l'aide du Saint-Esprit. Nous verrons ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous devons lui demander de faire en nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Nous avons chanté il y a un instant cette séquence Victimae Paschali Laudes qui est très belle. Non seulement son air est très beau, très connu parmi les chrétiens, mais tout ce qui est dit est d'une importance fondamentale, tellement importante que, eh bien, nous ne parlerons que du premier vers, de peur de bâcler la chose et de dire, en voulant trop dire, ne dire pas grand-chose en réalité. Concentrons-nous cette année sur le premier vers avec l'aide de Dieu. Victimae Paschali Laudes, immolent Christiani. À la victime de Pâques, venez chrétiens, immoler des louanges. Plus précisément, à la victime de Pâques, des louanges, les chrétiens ont l'habitude d'immoler. Qu'ils immolent des louanges, les chrétiens. La victime, mes très chers frères, la victime de Pâques, tout d'abord, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, victimé. Vous voyez, cette séquence commence par ce mot qui est un mot qui peut paraître sinistre et terrible puisqu'il s'agit d'un animal qui est mis à mort, mais en réalité c'est un chant de joie, un chant de victoire. Même dans l'Ancien Testament, on ne pleurait pas sur les animaux qui étaient sacrifiés. Ça c'est disons, c'est un peu une sorte de sentimentalisme postmoderne, ce n'est pas une perspective traditionnelle. Si nous amenons dans l'Ancien Testament, si nous amenions un animal parfaitement pur, parfaitement apte à être sacrifié, c'est pour que son innocence se charge en figure des péchés que nous avions commis et que son immolation nous épargne d'être immolés nous-mêmes à la colère de Dieu. Donc, lorsque nous disons victimé, ce mot victimé, qui pour tout autre que les chrétiens est un mot qui est plutôt sinistre, plutôt aux oreilles des mécréants, c'est un mot sinistre, pour les chrétiens, c'est un cri de joie, c'est un mot qui ouvre une séquence particulièrement joyeuse, victimée, victimée. Vous voyez comment le christianisme dispose ou présuppose une forma mentis très particulière qui n'a de sens que dans la mesure où l'on saisit ce que le Christ a fait pour nous, où on le croit. Il faut d'abord croire ce que l'Église nous enseigne et ensuite l'intérioriser, le faire nôtre, afin que cette foi qui est la nôtre, ne soit pas simplement une foi de démons, les démons croient et ils tremblent, dit saint Jacques, mais que ce soit la foi d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. La victime de Pâques, à la victime de Pâques, venez chrétiens, immoler des louanges. Toute la vie chrétienne est résumée dans ce premier vers, disions-nous. Victimae Paschali Laudes, immolent Christiani. Que les chrétiens immolent des louanges à la victime de Pâques. Le Christ est la victime de Pâques. Le Christ, nous avons répété à plusieurs reprises dans la liturgie de ces derniers jours, le Christ fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dès le début de l'évangile, Saint Jean-Baptiste nous montrait cet agneau de Dieu, ce Christ, ce Messie, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». La nature même de victime du Christ est énoncée clairement par Saint Jean-Baptiste qui, en cela, nous donne la clé de toute la figure de toutes les victimes de l'Ancien Testament. Il est la victime. Et contrairement aux animaux de l'Ancien Testament, qui étaient donc des animaux, simples animaux, donc qui étaient amenés, choisis dans le troupeau et amenés au temple, eh bien, notre Seigneur est une victime volontaire. Certes, il s'est laissé conduire à la mort comme un agneau innocent et muet qui ne se rebelle pas. Il s'est laissé conduire à la mort, mais vous vous souvenez ce qu'il a dit à Saint-Pierre qui brandissait l'épée d'une façon intempestive et qui a coupé l'oreille de Malchus, oreille que notre Seigneur a recollée, si l'on peut dire, a guéri. Il a dit, penses-tu que je n'aurais pas, si je n'aurais qu'à demander à mon Père et il m'enverrait de plusieurs légions d'anges pour terrasser mes adversaires. Mais comment est-ce que la volonté de Dieu s'accomplirait si je me défendais moi-même? Il est la victime, il a toutes les apparences d'une victime vétérotestamentaire, c'est-à-dire qu'il est conduit comme un agneau muet à l'abattoir, mais c'est une victime volontaire. N'oublions jamais, nous en avons parlé récemment, mes très chers frères, n'oublions jamais que notre Seigneur est une victime volontaire. Il s'est volontairement livré, et non seulement qu'il s'est volontairement livré, mais il a de toute éternité prévu et pourvu à ce qu'il soit la victime pour le péché d'Adam. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas simplement plié à ce qui lui arrivait, comme d'une certaine manière nous pouvons le faire, ou disons plutôt comme un païen pourrait le faire avec une certaine sagesse païenne, on peut pas aller contre ce qui arrive, donc du coup autant faire bonne figure. Il a préparé ce qui arrivait. La trahison, l'aveuglement des Juifs, la trahison de Judas, le baiser de Judas, la désertion des apôtres, tout ceci a été préparé et voulu par notre Seigneur afin qu'il puisse être immolé. Voilà la victime à laquelle eh bien, nous immolons des sacrifices de louanges. Nous y viendrons dans un instant. Le Christ, donc, fait obéissant volontairement jusqu'à la mort, pour nous. Factus est nobis, il a été fait pour nous. Le Christ a donc réalisé son amour pour nous. Et ça, c'est une chose que nous devons bien comprendre dans cette affirmation que le Christ est une victime volontaire. Pourquoi est-ce qu'il est une victime volontaire? Parce qu'il nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, il a voulu nous racheter. Et pour nous racheter, il fallait qu'il souffrît, et il a voulu souffrir. Là, le caractère de victime que nous attribuons au Christ, donc vous voyez, ce n'est pas du tout le vocabulaire actuel quand on dit c'est une victime, pauvre victime. C'est une victime, gloire à Dieu, alléluia, c'est une victime, et par sa qualité de victime, il a réalisé, c'est-à-dire il a rendu actuel, rendu réel, il a rendu effectif son amour pour nous. Il ne perdra aucun de ceux pour lesquels il s'est livré. Son Père lui a donné tous ceux pour lesquels il s'est livré, il n'en perdra aucun. Il l'a dit lui-même d'une façon extrêmement claire. Vous voyez comme cela doit nous encourager, mes très chers frères. Il est notre victime parce qu'il nous a aimés, et ceux qu'il a aimés, eh bien, contrairement à ce que disent certains, il a le pouvoir de les conserver. Quos redemisti, tu conserva Christe. Nous chantions ça pendant le carême, eh bien, nous devons le chanter toute notre vie, spécialement chacun pour soi. Ce que vous avez racheté, eh bien, conservez-les, Seigneur, car vous savez très bien que si nous étions rachetés, mais que notre Seigneur n'avait pas la capacité, n'avait pas le pouvoir suffisant pour nous conserver, eh bien, ayant été rachetés, nous retomberions dans nos anciennes habitudes, parce que si Dieu ne nous anime pas de sa grâce à chaque instant, et s'il ne nous donne pas lui-même sa propre charité, s'il ne nous anime pas d'un amour pour lui tel similaire à l'amour qu'il a pour nous, alors nous ne pouvons que retomber dans ce que nous sommes, c'est-à-dire redevenir très malheureux. Le Christ est donc la victime, victimé à la victime. Nous sommes ici en train d'adorer la victime, c'est-à-dire celui qui s'est fait notre Pâques, qui s'est fait victime pour nous. Mais victime, la séquence nous dit victime pascali, c'est-à-dire la victime pascale. Pourquoi? Eh bien, Sous un certain rapport, cette adjonction de cette épithète pascali, c'est-à-dire pascal, ce n'est pas là pour rien. On pourrait dire, dans victime, il y a nécessairement impliqué la qualité de victime pascale, et c'est vrai. Mais si l'Église a voulu que nous disions la victime pascale à la victime pascale, c'est parce que dans Pascal, il y a un enseignement qui passerait peut-être trop inaperçu si l'Église ne le soulignait pas. Victime pascali, à la victime pascale, dans le mot pascal, il y a l'union de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est impossible de comprendre ce que dit saint Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le péché du monde », si nous ne connaissons pas la doctrine sacrificielle de l'Ancien Testament, la doctrine des sacrifices telle que Moïse l'a codifiée, et telle que les patriarches l'ont pratiquée, et nos pères dans l'Ancien Testament l'ont pratiquée. Victime pascali, donc. Il est la victime pascale. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament, il va l'accomplir, il l'a accompli, dans sa propre personne, de telle sorte que le Nouveau Testament n'est que l'Ancien Testament accompli. Évidemment, vous le savez, mes très chers frères, si nous nous référons au Nouveau Testament en excluant l'Ancien Testament, en le rejetant et même en blasphémant contre lui, alors nous nous coupons, nous sommes comme un arbre dont on coupe les racines, et malheur à ceux qui coupent les racines, car ce sont ceux qui, en réalité, se coupent de la vie éternelle. L'Ancien Testament, la religion sacrificielle de l'Ancien Testament, est accomplie dans la religion, par le sacrifice du Christ, et elle est accomplie par la religion sacrificielle du Nouveau Testament. Les protestants, par exemple, ont bien de la peine à faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, ils disent volontiers que l'Ancien et le Nouveau Testament sont liés, en cela ils ont raison, puisque nous le disons aussi, plutôt ils le disent parce que nous le lisons, mais comment expliquer que expliquer le parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors ils disent, le Christ a accompli les sacrifices de l'Ancien Testament et désormais, il n'y a plus que le sacrifice accompli du Christ, tous les sacrifices ont cessé. Ce n'est pas ce que dit le Christ, puisqu'il dit, toutes les fois que vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y avait un système sacrificiel donné, et dans le Nouveau Testament, il y a un système sacrificiel aussi donné, propre. Les deux se font face, l'un et l'autre sont le pendant l'un de l'autre. Au milieu, entre les deux, comme dans les deux plateaux de la balance, il y a la croix du Christ, qui est l'accomplissement de toute chose. Mais dans le Nouveau Testament, il y a fondamentalement le rite du saint sacrifice de la messe. Est-ce que les protestants ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas expliquer. Alors ils disent, c'est les catholiques qui ont inventé cette notion de sacrifice. S'il n'y avait que les catholiques, bon, on pourrait dire effectivement, il n'y a que les catholiques qui ont la messe. Mais chez les schismatiques, chez les chrétiens qui sont dans les contrées les plus lointaines, et même qui sont sous un certain rapport schismatiques depuis bien plus longtemps que la majorité des schismatiques, donc les Grecs, les Russes et les autres, par exemple les Éthiopiens ou les Syriaques, eh bien, il se trouve qu'ils ont la même doctrine que les catholiques. C'est-à-dire que tous, nonobstant le schisme, et que Dieu résorbe les schismes, bien entendu, c'est notre prière, nous l'avons demandé lors des grandes oraisons du vendredi saint, mais il se trouve que, face aux protestants, tous les chrétiens, plus anciens que les protestants, s'accordent, quelques schismatiques qu'ils soient entre eux, s'accordent pour dire qu'au centre de la vie chrétienne, au centre de la liturgie chrétienne, il y a le saint sacrifice de la messe. Alors vous voyez quelle folie que d'avoir aboli le saint sacrifice de la messe. Même les schismatiques ne l'ont pas fait. Pauvres protestants, nous avons aussi prié pour eux, pour que le Seigneur leur ouvre les yeux et qu'ils se convertissent. Il y a un sacrifice dans le Nouveau Testament, et c'est celui qui accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament, le sacrifice unique du Christ. Il n'y a pas, contrairement à l'Ancien Testament, une réitération des sacrifices, chaque fois qu'il y a péché, il y a l'agissement liturgique de l'unique sacrifice du Christ, c'est-à-dire le sacrifice du calvaire, que lui-même a célébré et accompli avant sa mort sur la croix, lors de la première messe au Cénacle, et ensuite qu'il nous a donné comme mémorial de sa passion et sacrifice expiatoire. C'est pour cela que la victime est une victime qui doit être dite victime pascale. Les protestants pourraient dire, oui, la victime en parlant du Christ. La victime pascale, alors évidemment, il le dirait aussi parce que, d'une certaine manière, tout le monde est d'accord que le Christ est victime pascale, mais cela a un sens très particulier pour les catholiques, c'est-à-dire qu'il est la victime pascale, il est celui qui, désormais, a donné lieu au saint sacrifice de la messe, qui est la réalisation, l'accomplissement des sacrifices de l'Ancien Testament. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais nous passons. Vous voyez l'importance des mots. Pascali. C'est le rite prévu par Dieu pour le... Alors, voyons aussi autre chose. Il est l'agneau pascal parce que dans le premier agneau pascal tel que nos pères, les Hébreux, l'ont sacrifié lorsqu'ils étaient encore dans la captivité de l'Égypte, c'était un rite prévu par Dieu pour épargner son peuple de l'ange exterminateur. Vous savez que le sang de cet agneau pascal qui devait être immolé devait être recueilli et les linteaux des portes devaient être aspergés, comme sera aspergé plus tard la grande porte du ciel qu'est la croix, aspergée du sang du Christ. Le bon Dieu avait donné à nos pères en Égypte ce signe, ce sacrement du sang de l'agneau pascal appliqué sur les portes, afin qu'il les épargne lui-même. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a donné ce sang afin que les Hébreux qui seraient trouvés recouverts du sang de l'agneau soient épargnés par le même Dieu. Ce n'est pas un remède, une sorte de sacramental que Dieu nous aurait donné contre la nocivité du démon, contre... Nous avons des sacramentaux pour ça. Ça, c'est bien. Ce sont les Agnus Dei, ce sont la médaille de Saint-Benoît, c'est encore toutes sortes d'autres choses, le sel béni, l'eau bénite, bien entendu. Mais ce sont des choses qui tiennent leur puissance de la puissance du Christ lui-même. Mais, voyez-vous, ce n'est pas que Dieu nous donne quelque chose pour que nous soyons défendus contre le diable, c'est Dieu qui nous donne quelque chose qui n'est autre que le sang même de son Fils, afin que nous soyons protégés de sa propre colère. Dieu nous a tellement aimés, lui qui est saint, qu'il nous a donné le moyen de lui échapper. Et comment nous échapper de la colère de Dieu? Eh bien, en étant revêtus du sang de l'agneau, du Fils éternel de Dieu, que Dieu nous a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voyez, mes très chers frères, comment Dieu nous a aimés. Il a donné pour nous son Fils unique. C'est bien sûr saint Jean qui le dit. L'agneau pascal nous est donné afin que son sang nous protège contre la colère de Dieu. Nos pères en Égypte ont été rachetés, comme vous le savez, mais ils ont été rachetés malgré eux. Ils sont sortis de l'Égypte, mais on devrait plutôt dire ils ont été sortis, ils ont été tirés de l'Égypte. En Égypte, ils s'y plaisaient bien, certes, ils étaient esclaves, certes, ils étaient contraints de faire des briques pour construire les monuments les villes de Pharaon. C'est vrai, mais en même temps, il y avait les bonnes viandes, les bons légumes, les bons fruits. Et ce qu'ils reprocheront amèrement à Moïse à plusieurs reprises dans le désert lorsqu'il lui disait nous aurions mieux fait d'être esclaves en Égypte, au moins on avait de quoi manger, des bonnes choses à manger. Et aujourd'hui, ici, qu'est-ce que nous sommes dégoûtés de cette manne, qui était pourtant le pain du ciel qui descendait du ciel chaque matin pour eux. Eh bien, ils étaient dégoûtés de cela parce qu'ils étaient dans le désert, parce qu'ils étaient mal à leur aise, parce qu'ils étaient dans une situation qu'ils n'avaient pas choisie. Et la situation que nous n'avons pas choisie, mes très chers frères, c'est la situation qui garantit notre salut. Si Dieu ne nous aimait pas, il nous aurait laissés en Égypte et nous aurions disparu en Égypte. Puisque Dieu nous aime, il nous a tirés de la terre si grasse et si bien accueillante de l'Égypte pour nous conduire dans le désert, mais jusqu'à la terre promise, cette terre regorgeant découlant de miel et de lait, comme vous le savez, qui est le symbole de la vision béatifique du ciel, le paradis céleste. Donc Dieu nous a arrachés à l'Égypte, il nous a fait passer de l'Égypte par le baptême, et il est passé parmi nous faisant du bien. Dieu nous a épargnés du passage de l'ange mortel, et comme dit saint Pierre, il est passé parmi nous faisant du bien. C'est-à-dire que non seulement il nous a épargnés, il ne nous a pas traités comme il a traité les Égyptiens, mais il nous a traités, nous qui sommes si ingrats bien souvent, il nous a traités par sa bonté, en soignant nos malades et en guérissant nos malades, en ressuscitant nos morts et en nous faisant du bien, en nous délivrant du démon. Aujourd'hui, mes très chers frères, nous a dit la liturgie pendant tout le carême, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans le désert. Voilà comment le Christ est la victime pascale. Vous voyez tout ce que l'on peut dire sur ce terme pascal, véritablement, cela fait référence à l'agneau pascal. Alors, victime Pascali, à la victime Pascal, nous savons que de quoi il s'agit maintenant, de qui il s'agit. Laudes Immolent Christiani, que les chrétiens, Immolent, offrent des louanges. Ces louanges font référence au sacrifice de louanges de l'ancienne alliance. C'est pour cela qu'il y a une sorte de paradoxe, puisqu'on immole des louanges à la victime pascale. Mais comme la victime pascale est Dieu, le Fils de Dieu, alors il faut lui immoler des louanges comme on offrait des sacrifices d'action de grâce et de louanges dans l'Ancien Testament. Le sacrifice de louanges dans le Nouveau Testament, c'est le sacrifice mystérieux de Melchisédek, l'oblation du pain et du vin, qui sont le corps et le sang du Christ. Et il faut que ça, mais ils sont maintenant le sacrifice que nous immolons est un sacrifice de louanges. C'est pour cela que ces louanges ne sont pas simplement des louanges de bouche que nous faisons monter à Dieu, mais ce sont véritablement des louanges bien concrètes. Nous allons en parler. Ces louanges sont l'essence même du sacrifice. Lorsque nous parlons du Saint-Sacrifice de la Messe, nous parlons aussi du sacrifice eucharistique. Eucharistique, eucharistie en grec, signifie action de grâce. Alors vous allez dire, on dirait qu'on tourne en rond, puisque l'action de grâce que nous offrons, c'est la victime pascale, et la séquence nous dit que nous devons lui immoler des victimes d'action de grâce à lui qui est la victime pascale. Mais en réalité, cela ne fait qu'illustrer ce que dit saint Paul, nous avons tout pleinement par lui, et tout est in Christo, dans le Christ. Ces louanges sont donc l'essence du sacrifice. C'est la gratitude. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu un sacrifice qui lui plaît si ce n'est pas un sacrifice de gratitude. Nous devons aimer Dieu, mes très chers frères, pour le bien qu'il nous a fait contre les faux biens qui nous réduisaient en esclavage et qui nous tenaient en servitude. Lorsque nous sommes dans le désert, à manger de la manne, jour après jour, nous devons prendre conscience que si nous étions encore en Égypte, certes, nous aurions les oignons, nous aurions les bonnes nourritures d'Égypte, mais il se trouve que nous serions toujours esclaves du démon. Sous un certain angle, le démon sait, en quelque sorte, gâter ceux qu'il tient esclaves. Le bon Dieu, lorsqu'il nous aime, puisqu'il nous aime, eh bien, il nous mène par le désert, mais nous savons que ce n'est qu'une étape. Il nous mène par le désert, c'est-à-dire qu'il nous sœuvre, en réalité, comme on sœuvre un petit enfant, il nous sœuvre de notre passion pour les biens de l'Égypte. Il nous mène dans le désert où il nous nourrit d'un pain dont nous méconnaissons habituellement la valeur, et c'est le pain eucharistique. Bien souvent, surtout à cause des disciplines récentes, nous communions de façon lâche, de façon molle, d'une façon tiède. Si nous savions véritablement comment nous sommes nourris par ce pain suressentiel, eh bien, mes très chers frères, nous comprendrions pourquoi l'Église nous fait un devoir de communier une fois par an. C'est-à-dire de bien communier, et c'est cette manne qui nous donne la vie éternelle, contrairement à la manne que nos pères ont mangée dans le désert, et ils sont morts parce que ce n'était qu'une manne temporelle. C'est cette manne éternelle qui n'est autre que le corps et le sang, la chair et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre que ces louanges, qui sont l'essence du sacrifice que nous devons rendre à la victime pascale, doivent être des louanges qui viennent d'une véritable gratitude, et je vais vous donner la clé, en quelque sorte, psychologique de la gratitude. Pour être reconnaissant envers Dieu, il ne faut pas s'écouter soi-même. Vous vous souvenez ce que disait saint Prosper il n'y a pas si longtemps, il disait combien malheureux est la situation de celui qui, lorsque Dieu s'approche de lui avec les moyens de lui donner la vie éternelle, s'imagine que Dieu est en train de lui faire du mal, de l'agresser et de le torturer. Eh bien, mes très chers frères, pour être vraiment reconnaissant envers Dieu, pour pratiquer la véritable gratitude, il nous faut mettre de côté la petite idée que nous avons sur les façons que le bon Dieu a de nous traiter. Et c'est ainsi que notre gratitude sera véritablement objective, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'elle ne se fondera pas sur une joie temporelle que nous nous efforcerons de surnaturaliser, elle se fondera sur la foi, sur le postulat, la profession de foi, que Dieu nous aime, alors qu'il nous semble que Dieu ou bien nous abandonne, ou bien nous oublie, ou bien nous traite mal. Nous devons faire consister notre sacrifice d'action de grâce dans une véritable reconnaissance, et la véritable gratitude, eh bien, sous un certain rapport, et en général vers les débuts de la vie chrétienne ou de la pratique de la gratitude, peut avoir un aspect relativement artificiel. C'est-à-dire que nous reconnaissons les grâces de Dieu là où il nous semble tout simplement que Dieu est méchant. En réalité, si nous sommes dans la vraie gratitude, nous allons comprendre la logique de Dieu et nous allons comprendre combien en réalité il nous aime beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, que nous pouvons l'imaginer. Si la prière est une élévation de notre âme vers Dieu, alors la gratitude est la flamme du sacrifice qui nous transporte en Dieu. C'est le feu qui nous consomme, qui nous consume. La charité est indissociable de la gratitude. Mais tout ceci va contre la pente de la mauvaise nature, de la nature du vieil Adam, que nous n'avons plus par le baptême, ou plutôt dont nous sommes encore marqués à cause de certaines choses, de certains impondérables, mais il se trouve que, comme nous sommes par le baptême de nouvelles créatures, nous devons aller contre la pente de la vieille nature. Nous avons reçu l'autorisation, hier, lors de la vigile pascale, nous avons reçu l'autorisation désormais de prononcer à nouveau ce cri de joie, Alléluia. Nous en avions été privés. Nous avons été privés pendant 70 jours, puisque nous ne cessons de dire l'Alléluia aux premières vêpres de la Septuagésime. Pendant 70 jours, nous n'avions plus le droit ni de dire Alléluia, ni même de le penser, sous un certain rapport. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire Alléluia dans sa tête si on ne peut pas le dire dans la liturgie. Vous voyez, c'est un petit exercice. Alors, vous allez dire, mais à quoi bon? Si nous comprenions véritablement ce que signifie Alléluia, alors nous serions dévastés et tristes lorsque l'Église nous fait un devoir de ne plus le dire pendant 70 jours. Alléluia, alors nous n'allons pas approfondir aujourd'hui parce que sinon nous sortirions de notre sujet, mais Alléluia vient d'une racine, c'est un cri de joie qu'on le retrouve souvent dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, dans l'Écriture. C'est un cri de joie, c'est un mot hébreu qui signifie littéralement louons Dieu, louer Dieu plus précisément, louer Dieu. Mais la racine du verbe louer, ici, la fin du mot, c'est le nom de Dieu, et le début du mot, d'ailleurs, il y a presque un jeu de mots en français, puisque dans aller louer, on pourrait dire aller louer Dieu, c'est presque du français. Enfin, dans le racine du mot alléluia, eh bien, il y a un verbe qui, je passe les détails grammaticaux, qui signifie briller. C'est comme si on disait faites briller en l'honneur de Dieu. Et sous un certain mode grammatical, le verbe briller signifie le verbe louer. Est-ce que cela ne vous rappelle pas ce que dit notre Seigneur, que votre lumière brille devant les hommes, afin que quoi? Afin qu'ils vous admirent? Non, afin qu'ils rendent gloire à Dieu au jour de sa visite. Sans approfondir tout ce que nous pourrions dire sur le cri de joie Alléluia, nous pouvons dire ceci, nous ne louons Dieu véritablement comme Dieu veut être loué, que dans la mesure où, par nos œuvres, nous lui apportons la gloire qui lui est due. Par nos œuvres, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois, c'est toujours la même chose, l'accomplissement des bonnes œuvres qui sont prévues par notre devoir. Nous n'allons pas approfondir la chose ou répéter ce que nous disons, c'est un jour de joie, donc la flagellation reprendra un autre jour, Dieu voulant. Il se trouve que la flagellation des malfaiteurs... Il se trouve que nous ne pouvons louer véritablement Dieu, lui manifester véritablement notre gratitude, que dans la mesure où nous faisons les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne pouvons louer Dieu que dans la mesure où, par notre action, c'est-à-dire par nos bonnes œuvres, attention, hein, toujours pas les actions que nous faisons sur l'Internet, par notre action, par notre fidélité dans notre devoir, par notre excellence dans notre devoir, les gens louent Dieu. Lorsque l'on voit une mère qui est dévouée à son mari, une épouse dévouée à son mari, dévouée à ses enfants, à l'éducation de ses enfants, aux soins de ses enfants, lorsqu'elle les éduque dans la crainte de Dieu, etc. Lorsque l'on voit ça et qu'on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah, c'est vraiment très bien, ça montre que la valeur de la femme, c'est... Qu'est-ce qu'on dit? Loué soit Dieu. Alléluia pour cette mère. Lorsqu'on voit un père de famille qui ne se répand pas sur l'internet à faire toutes sortes de choses, qui ne se prend pas pour un clerc, qui ne se prend pas pour un théologien, mais qui éduque ses enfants, qui protège sa femme, qui aime sa femme comme le Christ aime l'Église, qui éduque ses enfants dans la crainte de Dieu, qui écarte tout ce qui peut nuire au salut éternel et de lui et de sa femme et de ses enfants, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on va dire « Ah voilà, les hommes, etc. » Non, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia pour ce père de famille. Alléluia, car nous voyons Dieu à l'œuvre. Nous voyons Dieu dans cette mère de famille. Nous voyons Dieu dans ce père de famille. Lorsque nous voyons un enfant qui obéit à ses parents, un enfant qui est docile, un enfant qui est obéissant, un enfant qui est pieux, un enfant qui aime le bon Dieu et qui, à son niveau d'enfant, fait ce que ses parents lui font, lui demandent de dire, lui demandent de faire, parce que dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'entraide familiale, etc., qu'est-ce qu'on va dire? Ah, cet enfant est génial. Non, on va dire Alléluia pour cet enfant. Loué soit Dieu pour cet enfant pieux, cet enfant qui rend gloire à Dieu. Vous voyez, c'est ainsi, mes très chers frères, que nos bonnes œuvres brillent devant les hommes. Non pas que nous voulions les faire briller. Elles brillent parce qu'elles sont brillantes. C'est ça qui est merveilleux. Celui qui veut se faire briller a besoin de déployer tout un appareil pour qu'on le remarque. Vous voyez, il fait toutes sortes de choses, il bâtit son petit chemin, etc. Et puis au bout d'un certain temps, arriver à un certain nombre de liseurs ou de pouces bleus, alors tout d'un coup on le remarque, on le loue, etc. Non, vous voyez, non. Celui qui fait les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance dans le cadre du devoir d'État brille véritablement. Alors vous allez dire, je n'ai pas l'impression de briller. Moins vous avez l'impression de briller, plus probablement vous brillez. À moins que, évidemment, ça soit votre conscience qui vous reproche que... Alors il faut se mettre à briller, alors. Il faut se mettre à briller. Mais si vous êtes fidèle là où Dieu veut que vous soyez fidèle, vous brillez. Et croyez-moi, si les hommes, si votre prochain vous ignore, vous méconnaît, croyez-moi qu'il y a des gens qui voient que vous brillez. Premièrement, il y a votre directeur. Ensuite, il y a l'Église en général. Il y a les frères et les sœurs qui, pas toujours, mais enfin, quand même, se rendent compte qu'un chrétien est plus saint que malsain, si j'ose dire. Et puis, il y a aussi les anges qui rendent gloire à Dieu pour la lumière que eux voient infailliblement. Et puis, il y a aussi les démons. Et croyez-moi, votre lumière brille. Dans l'absolu, dans l'invisible, elle brille, les anges la voient et ils louent Dieu d'une façon encore plus grande, puisqu'ils sont aussi ceux qui sont les témoins de vos bonnes actions. Et puis il y a les démons. Et c'est pour cela que lorsque nous brillons véritablement, et non pas selon le monde, mais que nous brillons véritablement, les démons nous attaquent. Et nous sommes découragés. Et nous sommes attaqués, nous sommes violemment agressés par les démons. Tout ceci est normal. Si nous ne brillions pas, les démons nous donneraient toutes sortes de bonnes victuailles d'Égypte. Mais il se trouve que les démons le voient, et de temps en temps, autant que nous pouvons le supporter, Dieu permet qu'il nous attaque pour que notre gratitude se double d'une confiance inébranlable en notre Dieu sans lequel nous ne pouvons rien. Nous y viendrons dans un instant. Brillez. Si vous voulez dire véritablement Alléluia, il y a des gens qui répètent tout le temps Alléluia. Bon, c'est très bien, mais est-ce que c'est l'essentiel? Si vous voulez véritablement que votre vie soit un Alléluia vivant, alors brillez, c'est-à-dire accomplissez les œuvres qui ressortissent de votre devoir d'État. Et vous verrez que vous brillerez véritablement et que Dieu le saura, et Dieu saura vous récompenser aussi. C'est une vie qui rend gloire à Dieu par l'accomplissement fidèle du devoir. Voyez ce que signifie laudes. Il ne s'agit pas simplement de chanter un chant comme ça pendant le temps de Pâques, ou alors d'être relativement heureux parce que les choses vont bien, et puis donc on donne une petite manne au bon Dieu, une petite dîme au bon Dieu de notre joie temporelle. Non, tout ça, ce n'est pas ça, louer. Louer, vous voyez, c'est véritablement se bâtir une vie qui soit un holocauste permanent, dont le crépitement ne soit que le cri d'Alléluia. Voilà ce que c'est que louer Dieu. Donc, à la victime pascale, des louanges qu'ils immolent, les chrétiens, immolent, qu'ils immolent. Le sacrifice de louange, il s'agit donc du sacrifice de louange, nous l'avons dit. Mais il y a toujours ceci qui dérange le vieil homme, c'est qu'on parle tout le temps de sacrifice. On a beau parler des bonnes œuvres, des œuvres de l'État, du devoir d'État, certes, mais c'est toujours sous l'angle du sacrifice. Le démon vous dira, le vieil homme vous dira, oui, faire les bonnes œuvres, faire les œuvres qui ressortissent du devoir d'État, bon, d'accord, mais pourquoi mettre toujours cette notion terrible et terrifiante et pénible du sacrifice au milieu de tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas louer Dieu simplement en dehors de tout cadre sacrificiel? Vous voyez comme le moi peut s'adapter, comme le vieil homme peut s'adapter même à notre piété. Si notre piété prévaut, si notre charité est plus forte, alors le moi va s'adapter. Ça ne veut pas dire que le moi va être vaincu tout de suite. Il faut le vaincre, même lorsqu'il paraît aller dans notre direction. Le sacrifice de louange. Pourquoi toujours cette notion de sacrifice? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de gratitude sans mise à mort du vieil homme. On ne peut pas être dans la gratitude envers Dieu si l'on ne met pas à mort le vieil homme. Le vieil homme ne demande qu'à être dans la reconnaissance envers Dieu. Vous voyez, le vieil homme s'exprime ainsi, il dit « Mon Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, un pécheur. Je donne la dîme de tous mes revenus, etc. » c'est très bien de ne pas être un pécheur. C'est bien d'être saint, c'est-à-dire d'être séparé du reste des hommes, de ne pas être un pécheur comme le reste des hommes, de ne pas transgresser la loi, de ne pas être habituellement dans le péché comme un publicain. C'est vrai, c'est bien. Mais vous voyez, notre Père Saint-Augustin dit, vous avez reconnu les paroles du pharisien, le pharisien notre Père Saint-Augustin ne dit pas, nous dit, le pharisien ne faisait rien de mal, mais il oubliait que tout le bien qu'il faisait venait de Dieu. Et il rendait grâce à Dieu selon le vieil homme et non pas selon l'homme nouveau. Je vous rends grâce de ce que je suis, je ne suis pas, je fais, etc. Merci mon Dieu de me donner la force de faire ces choses-là, de me donner la grâce pour que je fasse ces choses-là. Vous allez dire, ça revient au même. Formulez ces vérités en disant tout le temps « Je vous rends grâce que vous m'ayez donné la grâce de pouvoir ne pas être comme le reste des hommes. Je vous rends grâce que vous m'ayez donné la grâce de ne pas être pécheur, de ne pas être publicain. » Et vous verrez que cela éreinte le vieil homme. Le vieil homme aimerait plutôt dire « Je vous rends grâce de ce que je suis, je fais, je ne suis pas. Je vous rends grâce de ce que sans vous, je ne serai qu'un pécheur comme les autres. » Voilà comment on flagelle et on éreinte le vieil homme. Voilà comment on offre à Dieu des louanges, mais un sacrifice de louanges. Alors vous allez dire, mais à strictement parler, si on sacrifie dans ce sacrifice de louanges le vieil homme, on dirait que vous faites du vieil homme la victime. Et en réalité, c'est une victime plutôt qui serait comme une victime abominable à Dieu, comme un animal aveugle, boiteux, galeux, que sais-je, et que certains osaient offrir à Dieu parce que comme ça, ils se débarrassaient des vieilles bêtes et des sales bêtes. Non. Alors, vous allez dire, est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de dire? Non. Comprenez bien que le vieil homme, en réalité, le vieil homme n'est autre que nous-mêmes. Le vieil homme n'existe pas en lui-même. Le vieil homme n'est que nous-mêmes, tels que nous sommes par la nature, mais avec cette blessure terrible de la chute qui fait que nous avons une sorte de déviation naturelle et que, quelles que soient les bonnes tendances que nous avons en nous de par notre nature qui est faite à l'image de Dieu, nous y reviendrons dans un instant, malheureusement, quelque chose fait que nous voulons faire le bien, mais nous ne faisons pas le bien que nous voulons. Si nous immolons le vieil homme, c'est-à-dire que ça signifie que nous nous immolons nous-mêmes. Le vieil homme n'est donc pas une victime agréable à Dieu, mais c'est son élimination qui lui est agréable. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament absolument fondamental qu'il faut bien maîtriser. C'est pour ça qu'il faut être familier surtout de l'histoire de l'Ancien Testament pour pouvoir comprendre les prédicateurs. Sinon, les prédicateurs prennent des exemples, mais comme personne ne comprend, eh bien, on s'ennuie et on a l'impression qu'on parle de quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas, évidemment, pour cause. Alors, fréquentez l'Ancien Testament et vous verrez et que vous comprendrez beaucoup mieux les sermons, mes très chers frères. Il y a dans l'Ancien Testament l'exemple d'une non-immolation du vieil homme qui a été véritablement très mauvaise. Et c'est l'histoire de l'élimination, de l'éradication des Amalécites par Saül. Vous savez que Dieu avait, à cause de la méchanceté gratuite d'Amalek, Dieu avait condamné le peuple des Amalécites à être entièrement détruit. C'est pour cela que dans le vocabulaire chrétien, le nom d'Amalek est un nom maudit, est un nom qui n'est autre, si vous regardez la signification, la symbolique de ce nom dans les pères de l'Église, par exemple, eh bien, ils vous diront toujours que c'est le nom du péché. Amalek est donc quelque chose de haïssable. C'est un nom que le chrétien ne devrait prononcer que de temps en temps, quand il le faut, mais avec horreur et avec mépris. C'est le nom du péché. Eh bien, le peuple d'Amalek était un peuple riche, et Saül est allé lui faire la guerre. Il a éradiqué un certain nombre de sa population, ce qui était très bien. Il a éradiqué aussi un certain nombre d'animaux, parce qu'il devait être détruit entièrement, lui et ses animaux. Mais il se trouve que, comme c'était un peuple fort riche, il a récupéré un certain nombre de beaux troupeaux. Et il a aussi épargné la vie du roi, le roi Agag. Agag, c'est son nom. Donc, alors pourquoi? Vous allez dire, parce que probablement Saül voulait emmener vivant le roi des Amalécites et le faire participer à son triomphe. Effectivement, on le voit, les Romains faisaient pareil, ils aimaient bien préserver les chefs et les rois et les chefs de tribus, etc., qu'ils avaient conquises, et les faire figurer dans le triomphe, le cortège triomphal de l'empereur à Rome. C'était des choses qui se faisaient dans l'Antiquité. Donc, Saül a épargné les meilleures bêtes, et il a épargné le roi Agag, le roi des Amalécites, alors qu'il aurait dû le tuer. Or, il se trouve que, mes très chers frères, lorsque Samuel, le prophète, a entendu ces mugissements, il a dit à Saül, « Qu'est-ce que j'entends ?» Et Saül, un peu gêné, a dit, « Le peuple a épargné les plus belles bêtes pour les offrir à ton Dieu, c'est-à-dire au Seigneur. » Et c'est là où Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül a commis deux erreurs. En quelque sorte, il a pris des animaux magnifiques pour offrir à Dieu, mais à contre-temps. Vous voyez, quand on veut offrir à Dieu ses talents, mais à contre-temps. À contre-temps. Et on veut offrir à Dieu ou au peuple de Dieu l'exemple d'un roi amené captif auquel on a épargné la vie alors qu'on aurait dû le tuer. Samuel a fait venir devant lui Agag, le roi des Amalécites. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est assez frappant, Agag est venu tout joyeux. On imagine cet homme qui venait d'échapper à la mort, arrivé assez joyeux, le cœur léger, en disant allez savoir si je ne vais pas, comme ça se serait déjà vu, je ne vais pas intégrer le personnel du roi Saül, qui va peut-être me faire grand écuyer, etc. Ça se serait vu, ce sont des pratiques qui peuvent se faire. On dégrade tout en agrégeant, d'une certaine manière. Tout joyeux. Et qu'a fait Samuel? Il l'a mis en pièces devant le Seigneur. Cet homme, qui était un prophète, qui était un homme qui a été élevé dans le temple, a mis en pièces le roi Agag, et il a plu au Seigneur. On ne peut pas dire qu'Agag ait été un sacrifice de louange, mais parce que Dieu voulait sa destruction, ce qu'a fait Samuel a été agréable à Dieu. Donc vous voyez, nous devons, cet Agag intérieur qu'est notre vieil homme, nous devons l'immoler, le mettre en pièces devant le Seigneur en action de grâce. Je disais qu'il y a, lorsqu'on est indulgent envers son vieil homme, il y a toujours des mauvaises, il y a des répercussions, les conséquences de l'indulgence envers le vieil homme. Agag, alors l'Écriture ne nous dit pas tout, mais elle nous explique que Agag a eu quand même des descendants. Il avait des descendants, puisqu'il a été tué, mais il avait déjà des descendants. Et Saül, épargnant ses descendants, a fait qu'un lointain descendant d'Agag a failli détruire et éradiquer le peuple de Dieu. Car il est écrit dans le livre d'Esther que Haman, ce premier ministre du roi, qui était si orgueilleux, était un descendant d'Agag. C'est un descendant d'Agag. Haman était un Amalécite qui avait fait carrière à la cour du roi de Babylone. Son lointain descendant était Haman. Et vous savez combien il était ulcéré que Mardochée ne se prosterne pas devant lui. Et vous savez aussi comment la piété de la reine Esther a sauvé le peuple d'Israël et a fait que Haman a été pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, lui et ses enfants. Eh bien, vous voyez, mes très chers frères, alors vous allez dire, mais Dieu fait tout concourir à notre bien. C'est vrai. Mais si Saül avait éradiqué la dynastie d'Agag, il n'y aurait pas eu ce danger pour le peuple d'Israël longtemps après lui. Vous allez dire, de toute façon, Dieu fait concourir toutes choses au bien, et de toute façon, quoi qu'on fasse, Dieu fait tout. Dieu, si le peuple d'Israël doit être épargné, il sera épargné. Oui et non. Ferons-nous le mal afin que la grâce abonde? Loin de là, dit saint Paul. Bien sûr que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est vrai, mais on ne va pas se laisser aller à faire n'importe quoi sous prétexte que Dieu est toujours là pour parer aux conséquences. Les conséquences désastreuses du vieux levain, mes très chers frères, seront immanquables là, immanquablement là, si, comme dit saint Paul, nous ne faisons pas disparaître le vieux levain, nous qui sommes des pains sans levain, une pâte nouvelle qui doit être agrégée au sacrifice de l'agneau pascal. Car vous savez que nos pères mangeaient l'agneau pascal, la chair de l'agneau pascal, avec les pains sans levain. Nous sommes les pains sans levain qui, par l'immolation que nous faisons de sacrifice d'action de grâce, sommes agrégés à l'agneau pascal, et à Dieu, nous sommes cet agneau pascal présenté avec les pains sans levain. C'est pour cela que saint Paul nous dit « Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, mais avec un ferment, ni avec un ferment de malice et de perversité, mais avec des azymes de pureté et de vérité. Immolons Agag, mes très chers frères, tuons la malécite dans notre cœur, éradiquons-le, lui et ses animaux. Éradiquons-le entièrement, afin que notre sacrifice d'action de grâce à l'agneau, la victime pascale, soit authentique et ne soit pas un sacrifice tel que Saül voulait le faire, un sacrifice fait avec des animaux qui, quoique purs, étaient en abomination à Dieu, car Dieu avait demandé l'éradication totale d'Amalek, et comme il ne l'a pas fait, eh bien il y a eu des conséquences. Vous voyez, immolent. Nous devons immoler le vieil homme, immoler le vieux levain, nous purger de ce vieux levain, afin de pouvoir être non seulement de dignes laudateurs de l'agneau pascal, mais que nous puissions lui être associés. Victime pascali laudes immolen Christiani. Eh bien, mes très chers frères, cet agneau pascal, on lui immole des actions de grâce quand on est chrétien. Et c'est pour cela qu'il est dit Christiani. Victime pascali laudes immolent Christiani. Les chrétiens immolent des sacrifices d'action de grâce à la victime pascale. Les chrétiens, qu'est-ce que c'est les chrétiens? Ce sont ceux qui portent le nom du Messie. Ce sont ceux, le Christ, dont nous portons le nom, c'est le Messie en grec, c'est le mot grec du Messie. C'est ceux qui ont été recouverts du sang qui a dégoutté de cette porte céleste qu'est la croix, ce précieux sang dont nous sommes tous revêtus. C'est ceux qui se confient en Dieu, ce sont les enfants de Dieu rachetés par le sang de l'agneau, le sang précieux de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui, a priori, par le fait qu'il est chrétien, peut escompter la bienveillance divine envers lui. Je vous ai dit, est-ce que ce n'est pas un peu de présomption? Non, parce que le Seigneur Dieu nous a donné l'agneau pascal afin que nous peignions nos portes, nous marquions nos portes avec son sang, afin que lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Dominus Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant, nous épargne. Nous avons été aimés par Dieu alors que nous étions encore ses ennemis, dit saint Paul. Quelle ingratitude que de ne pas l'aimer en retour, mes très chers frères. Quelle ingratitude que de s'aimer soi-même et de ne pas aimer notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. Son amour pour nous est tel qu'il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis, et son amour est tel que, en l'aimant, non seulement nous faisons la volonté de Dieu, non seulement nous échappons à la colère de Dieu, mais nous sommes incorporés au sacrifice de cette victime pascale, bien plus, nous sommes incorporés au corps mystique de ce sacrifice, de cet agneau pascal, et il se trouve, mes très chers frères, que nous ne sommes plus qu'un avec cet agneau de Dieu, le Fils éternel de Dieu, qui est mort pour nous les hommes et pour notre salut. Rendons gloire à ce Dieu qui nous aime tant, rendons gloire à ce Père qui nous a aimés et qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous, pour notre salut, rendons gloire à ce Fils qui nous a tant aimés, qu'il s'est immolé en tant que véritable agneau pascal, et rendons gloire au Saint-Esprit qui est le feu de la charité, la vraie personne divine, vrai Dieu, procédant du Père et du Fils, ce Saint-Esprit qui est le feu qui embrase l'holocauste de notre vie et qui nous rend agréable à Dieu. Nous terminons ici notre serment, maître Schaeffer. Nous continuerons plus tard, une autre fois, la deuxième partie, car la première partie nous a pris beaucoup de temps. Rendons, maître Schaeffer, nous qui sommes chrétiens, rendons gloire à Dieu, rendons à Dieu un sacrifice de louange, rendons à la victime pascale des sacrifices de louange qui consistent à nous immoler nous-mêmes, par amour pour lui, en union avec lui, et pour lui, et par lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci. Merci.